Le Dalaï Lama, né en 1935. Le chef bouddhiste le plus célèbre du monde est le moine Tenzin Gyatso, plus connu sous le titre de 14e Dalaï Lama du Tibet. Le titre Dalaï, qui signifie en langue mongole « océan », fut accordé à un lama, mot tibétain qui traduit le sanskrit « gourou » ou « maître spirituel », tibétain exceptionnel il y a plus de 400 ans par un roi mongol. Ce roi fut si impressionné par la présence spirituelle de ce lama qu'il considérait celui-ci comme un océan de sagesse. Depuis, chaque Dalaï Lama qui lui a succédé a eu « gyatso », le mot tibétain pour « océan », dans son nom officiel. À propos, le mot Tenzin, du nom de l'actuel Dalaï Lama, signifie « détenteur de l'enseignement ». En raison de la célébrité de cet instructeur spirituel et dirigeant politique vénéré, nous vous proposons une présentation de sa biographie et de son œuvre un peu plus détaillée que celle des trois maîtres précédents. N'oubliez pas, l'actuel Dalaï Lama est le 14e d'une ligne de maîtres spirituels tibétains qui fut fondée il y a plus de 500 ans. Dans cette lignée, on trouve certains des méditants, maîtres spirituels, auteurs et poètes les plus accomplis de l'histoire tibétaine. Depuis l'époque du 5e Dalaï Lama, Lobsang Gyatso, 1617-1682, surnommé le Grand 5e, et dont tous les Tibétains ont entendu parler sous ce surnom, les successeurs de cette lignée sont aussi les chefs spirituels et temporels de la nation tibétaine. Cela équivaudrait en Europe à une personne remplissant simultanément la charge du pape et celle d'un roi. Durant le règne du Grand 5e, on construisit à Lhasa le palais Potala, qui est la résidence des Dalaï Lama. Outre le Dalaï Lama lui-même, cette structure imposante demeure le symbole le plus reconnaissable du Tibet aujourd'hui. L'un des aspects les plus exceptionnels de la culture tibétaine, c'est la manière dont la charge de chef spirituel et temporel passe d'une génération à la suivante. On ne devient Dalaï Lama ni en héritant du trône d'un parent décédé, ni à la suite d'une victoire à des élections. Au lieu de tout cela, lorsqu'un Dalaï Lama meurt, son successeur est découvert et ensuite installé à sa place. N'oubliez pas, ce système se fonde sur le principe de la réincarnation. Écoutez le chapitre 13 pour en savoir plus sur le sujet. Selon des enseignements bouddhistes, lorsque des maîtres de méditation ont acquis un contrôle suffisant sur leur esprit par la pratique spirituelle, ils peuvent rester conscients alors même qu'ils sont en train de mourir et ainsi véritablement choisir le lieu où ils renaîtront et chez quels parents. Le fait de choisir le lieu de la renaissance augmente les chances qu'on les découvre en bas âge. D'ailleurs, ils sont souvent découverts par un ou plusieurs de leurs anciens disciples. Ces jeunes enfants, appelés tulku ou lama réincarnés, sont ensuite formés aux disciplines spirituelles que leurs prédécesseurs maîtrisaient. Les leçons qu'ils avaient données aux autres leur sont alors à leur tour dispensées. Comme ils connaissent déjà cet enseignement de par leurs vies antérieures, leur formation avance en général assez vite, ce qui permet de reprendre rapidement la fonction à laquelle leur carrière spirituelle les a préparés. Dispenser à autrui les bienfaits suprêmes. De nombreux lamas réincarnés vivaient au Tibet lorsque les Chinois envahirent ce pays dans les années 1950. Et selon certaines sources, 200, sur approximativement 1000, ont réussi à s'échapper. Le plus important de ces tulku échappés était le Dalaï Lama que l'on vénère comme étant l'incarnation humaine du Bodhisattva de la compassion, Chenrezig en tibétain. Considéré comme le protecteur du pays des neiges, du Tibet, Chenrezig est la divinité protectrice des Tibétains. Le Dalaï Lama est devenu le chef temporel et spirituel suprême des Tibétains depuis l'époque du Grand 5e. Comme celui-ci, le 13e était aussi appelé le Grand, et lorsqu'il mourut en 1933, de nombreux signes indiquèrent que sa réincarnation surgirait quelque part au nord-est de Lhasa, la capitale du Tibet. l'oracle d'État, un moine doué de voyance extralucide que le gouvernement consultait toujours au sujet de questions importantes, confirma que la recherche du nouveau Dalai Lama devait se concentrer dans la province d'Amdo, à l'extrême nord-est, non loin de la frontière avec la Chine. Pour réduire le champ de la recherche, le lama, faisant fonction de souverain temporaire, décida de se rendre en un lieu saint appelé le lac Oracle, afin de voir s'il pourrait recevoir une vision du lieu de naissance du nouveau Dalai Lama. Au lac, il reçut plusieurs visions, consistant en une série de lettres, l'image d'un monastère de 3 étages avec un toit de couleur turquoise et or, et une maison avoisinante avec des gouttières inhabituelles et entourée de petits genévriers. Le comité chargé de déchiffrer ces indices établit que le monastère en question devait être celui de Kumbum, un site sacré de la province d'Amdo, qui était le lieu de naissance du grand Tsongkhapa, le principal gourou, maître, du premier Dalai Lama. Un groupe de lamas de haut rang, emmené par Khoetsang Rinpoché, un ami proche du grand 13e, partit pour le monastère de Kumbum afin de chercher l'enfant qui promettrait d'être le prochain Dalai Lama. Lorsqu'ils atteignirent le petit village de Taktser, où se trouvait une maison qui correspondait à celle de l'image donnée par le lac Oracle, ils surent que leur recherche était en train d'aboutir. Dans cette maison, ils découvrirent le petit Lamo Tondup, né le 6 juillet 1935, qui était alors âgé de 2 ans et demi. Khoetsang Rinpoché fut rapidement convaincu qu'il s'agissait de l'enfant qu'il recherchait. Lorsqu'il revint à Taktser plusieurs semaines plus tard, Khoetsang Rinpoché apporta 2 cannes avec lui. L'une avait appartenu au grand 13e. Le petit Lamo s'en empara et dit « C'est la mienne, que fais-tu avec ?» Lamo prit aussi le chapelet que Khoetsang Rinpoché portait autour du cou et que le 13e Dalai Lama lui avait offert et affirma qu'il s'agissait aussi du sien. Plus tard dans la soirée, Khoetsang Rinpoché plaça plusieurs objets rituels sur une table devant Lamo et le petit garçon prit immédiatement les objets qui avaient appartenu à son prédécesseur en ignorant les autres. C'est alors que Khoetsang Rinpoché sut avec certitude qu'ils avaient trouvé la réincarnation du Dalai Lama. Mais les négociations avec le seigneur de la guerre locale durèrent plus d'un an et le voyage de 3 mois à destination de Lhasa ne commença pas avant juillet 1939, alors que Lamo avait 4 ans. Le printemps suivant, Lamo Tondup fut cérémonieusement intronisé 14e Dalai Lama et habillé des robes de moine. Au début, ses précepteurs se concentrèrent simplement sur son apprentissage de la lecture. Mais ensuite, le jeune garçon commença à suivre l'emploi du temps rigoureux d'un moine. Il se réveillait tôt le matin, récitait des prières, méditait et mémorisait et récitait des textes. Tout cela avant le déjeuner. L'après-midi, son enseignement se poursuivait avec l'étude des textes philosophiques qui composent la partie la plus importante de l'éducation d'un moine. À l'âge de 12 ans, le Dalai Lama participa déjà à un débat contradictoire en apprenant ainsi comment défendre avec énergie et habileté et comment attaquer les différentes positions philosophiques présentées dans ces textes. La formation du Dalai Lama était sensiblement différente de celle des moines ordinaires en raison d'un volet particulier. Outre ses études, il passait aussi une partie de la journée à participer à des réunions avec des ministres du gouvernement. Bien qu'il ne fût encore qu'un enfant, sa présence lors des réunions où se prenaient les décisions lui fit alors prendre conscience de l'énorme responsabilité qu'il devrait un jour assumer. Et ce jour-là arriva plus tôt que quiconque ne l'avait imaginé. À la fin de l'année 1949, la Chine commença à masser des troupes le long de la frontière orientale du Tibet. Elle se préparait à une invasion qui devait finalement engloutir tout le pays et mettre un terme à une culture et à un mode de vie qui existait depuis des siècles. Les Chinois voulaient depuis longtemps incorporer le territoire tibétain à la Chine et la révolution communiste en Chine, qui se produisit peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, leur donna l'occasion de pénétrer au Tibet sans rencontrer d'opposition de la part des autres grandes puissances d'alors. Pendant les 10 années qui suivirent, le Dalai Lama essaya de négocier avec les autorités chinoises qui avaient pris le contrôle du Tibet en déclarant « libérer le Tibet des forces de l'impérialisme ». Pourtant, les seules forces impérialistes d'alors, c'étaient les troupes chinoises elles-mêmes. Le Dalai Lama essaya de protéger les Tibétains de la catastrophe, mais il ne put pas faire grand-chose. En 1954, les hauts dirigeants chinois invitèrent le Dalai Lama à les rencontrer à Pékin. Ses fonctionnaires essayèrent de le convaincre des bienfaits du communisme. Mais lorsqu'il se plaignit auprès du président Mao que les soldats chinois attaquaient et détruisaient les institutions religieuses tibétaines, qui constituaient le cœur de l'identité culturelle tibétaine, il obtint une réponse impitoyable. « La religion, c'est du poison », lui rétorqua le dirigeant chinois. C'est à ce moment-là que le Dalai Lama prit la mesure de l'état catastrophique de la situation. En 1956, lors du 2500e anniversaire de la mort du Bouddha, le Dalai Lama accepta l'invitation du premier ministre indien, Nehru, de se rendre en Inde pour célébrer cet événement important. En Inde, il informa Nehru des dangers auxquels le Tibet faisait face et reçut l'assurance que si la guerre avec les Chinois éclatait, les Tibétains pourraient choisir l'Inde comme asile. N'oubliez pas. Malgré la situation qui se dégradait, malgré ses responsabilités de plus en plus importantes et les nombreuses distractions auxquelles il était confronté, le Dalai Lama continua ses études monastiques et, début mars 1959, il obtint son diplôme de Geshe, qui correspond approximativement à un doctorat d'État en philosophie et théologie. Quelques jours après seulement, la situation qui ne cessait d'empirer au Tibet atteignit un paroxysme. Le 10 mars, commémoré depuis lors comme la journée nationale de l'insurrection, des dizaines de milliers de Tibétains entourèrent la résidence d'été du Dalai Lama, la Norbu Lingka, pour le protéger des forces chinoises qui étaient sur le point de l'enlever. L'oracle d'État déclara que la seule possibilité qui restait au Dalai Lama était de partir immédiatement pour l'Inde et de continuer depuis l'exil à faire campagne pour sauver le Tibet. Le 17 mars, déguisé en soldat, le 14e Dalai Lama s'éclipsa de la Norbu Lingka et entreprit son voyage vers l'exil. Deux semaines plus tard, après avoir traversé certains des lieux enneigés du Tibet les plus difficiles à passer, il atteignit l'Inde pour commencer une nouvelle vie. Pour une version spectaculaire et dans l'ensemble précise de cette histoire, voir le film Kundun de Martin Scorsese. Environ 1 million de Tibétains, soit 1/6 de la population, essayèrent de s'enfuir avec le Dalai Lama en 1959 et peu après. Pourtant, moins de 100 000 parvinrent à arriver en Inde et dans les pays avoisinants. Alors qu'au Tibet, le tribut de vie humaine dû à la brutale invasion chinoise était atterrant, d'innombrables Tibétains qui réussirent à échapper aux forces chinoises pour suivre le Dalai Lama n'eurent guère de meilleur sort. La maladie, la malnutrition, les différences climatiques extrêmes et les épreuves du voyage en tuèrent des dizaines de milliers. Pour le jeune Dalai Lama, la vie en Inde se révéla très différente de celle de son pays natal. Il s'installa bientôt dans une modeste résidence de la ville de Dharamsala, dans le nord de l'Inde, bien loin du palais menaçant de Potala à Lhasa. Au Tibet, il avait vécu comme un prisonnier virtuel, à la fois des Chinois et des anciennes coutumes et institutions religieuses tibétaines. Désormais, il avait davantage de latitude pour prendre en charge sa vie et créer des politiques plus en accord avec ses principes personnels et son intérêt pour les méthodes scientifiques et démocratiques. N'oubliez pas. Peu après son arrivée en Inde, le Dalai Lama établit le gouvernement tibétain d'exil à Dharamsala et commença à instituer des réformes démocratiques dans la communauté d'exil, tout en continuant à suivre de près les événements qui se déroulaient au Tibet même. Avec l'aide du gouvernement indien, le Dalai Lama installa des communautés de peuplement et établit des monastères. Sous sa direction, des écoles, des centres hospitaliers, des centres d'artisanat et d'autres organisations culturelles furent établis en Inde, de même que dans d'autres pays. C'est en agissant ainsi et d'autres manières innombrables, au travers de sa promotion, de son soutien et de ses encouragements, que le Dalai Lama a réussi à préserver l'identité culturelle tibétaine malgré la dévastation de son pays et le génocide de son peuple. Avec les années, Le Dalaï Lama, qui désire autant apprendre que répondre à des demandes d'enseignement, a établi des rapports chaleureux fondés sur le respect mutuel avec les chefs spirituels et les adeptes de nombreuses autres fois. Le même esprit de partage mutuel a marqué ses contacts fréquents avec des scientifiques, des dirigeants politiques, des militants sociaux, des psychothérapeutes, des artistes, des musiciens et d'innombrables autres personnes et groupes venus de tous les horizons. Le Dalaï Lama est devenu l'une des figures centrales qui s'efforce de trouver un terrain commun aux religions du monde. Ses commentaires des évangiles chrétiens, par exemple, rassemblés sous le titre « Le Dalaï Lama parle de Jésus, une perspective bouddhiste sur les enseignements de Jésus », édition Brépols et J'ai lu, sont considérés comme une contribution majeure au dialogue entre les religions. Il fait aussi preuve d'un vif intérêt pour les découvertes scientifiques relatives au fonctionnement du cerveau et aux manières dont elles pourraient être liées à la façon dont le bouddhisme conçoit l'esprit. Le Dalaï Lama a proposé que des recherches scientifiques soient exécutées sur des adeptes avancés de la méditation tibétain afin que l'Occident puisse commencer à établir, en se servant de ses propres méthodes, l'effet transformateur des pratiques spirituelles. Les conférences Mind Science, sciences de l'esprit, qui ont été tenues entre sa sainteté et des figures clés de la science et de la philosophie occidentale, ont déjà abouti à la publication de nombreux livres. Il y a seulement 50 ans, le monde du Dalaï Lama était encore assez étroit. Peu de gens avaient accès à lui, et lui-même avait un accès limité au monde extérieur. Aujourd'hui, son visage souriant et son rire contagieux sont connus par des millions de gens à travers le monde. Il passe la plus grande partie de son temps à voyager, à rendre visite à des communautés tibétaines de l'étranger et à dispenser ses enseignements lors de conférences auxquelles assistent des milliers de participants. De nombreux films documentaires ont été réalisés à son sujet, de même que deux grands films, « 7 ans au Tibet » et « Kundun », auxquels il a apporté son aide considérable. Depuis qu'il a reçu le prix Nobel de la paix en 1989, pour sa lutte non violente au nom du peuple tibétain, le Dalaï Lama est devenu le bouddhiste le plus reconnu du monde et un symbole vénéré des vertus bouddhiques de la sagesse, de la compassion, de la tolérance et du respect. Même ceux qui ne s'intéressent pas à la religion reconnaissent sa bonté, son humanité simple et son humour, et ils y réagissent. Le 14e Dalaï Lama est ainsi véritablement devenu un ambassadeur du bouddhisme auprès du reste du monde.